voilà, j'étais engagé sur quelque chose. J'ai laissé complètement passer le top horaire. Il y a eu midi, 1 minute et 17 secondes. J'allume la lumière, ce sera mieux. Et on le fait à distance, alors c'est pas pratique. C'est quand même l'une des dernières fois qu'on le passe, hein, ce générique, alors on va quand même pas le squeezer trop vite. Du sport, c'est déjà barré, c'est sympa. Zou.
Ami, bonjour, 3, 4.
Chip. Chip, chop.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 2 août 2008 et il est midi passé.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
FMR. S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer... Non.
Maintenant.
Oui, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV, série, sortie.
Suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires, de l'infirmerie et des couloirs politiques du Parti communiste chinois.
Et ensuite...
À 15h c'est du reggae avec un programme que je ne sais pas. Et à 17h, Booster FM prend un suite sur 89,1 MHz jusqu'à demain matin. Vous écoutez FMR sur 89.1. Nous sommes en direct de midi. Nous sommes en direct en continu sur www.radio-fm. FMR.net sur stream. Bonjour et bienvenue.
Salut.
Voilà, ben aujourd'hui c'est un départ complètement loupé. Je
pense ouais.
Que ça manque un peu de pêche, ce générique et tout ça. En même temps, c'est l'été, il fait bien chaud. On va y aller à la cool. Et on va y aller à la cool dès maintenant avec un remix de Kid Loco, des Pastels, The Viaduc. C'est très lent, c'est très calme, c'est extrait du... d'une compilation de remix par Kid Loco qui s'appelle Jesus Life for Children Under 12 Inches.
Ça fait cher quand même la suite de poster. Hein.
Et vous allez pas le croire, mais le lecteur CD, en fait, il a sauté de plage. Il a démarré en plein milieu de la plage 2 sans aucune raison valable. Oui, Thomas a parlé de Technicart, on en parlera tout à l'heure, et de Mad Movies.
Your truck's broke down.
Il fait chaud, vous écoutez la radio, c'est le supplément week-end numéro 167. Je suis en retard d'ailleurs, j'ai toujours pas mis en ligne le précédent pour ceux qui nous écoutent sur le podcast.
Ouais, tu devrais faire un jingle à ce sujet parce que tu le répètes
yes,
chaque fois la même chose.
À la bourre, à la bourre, à la bourre. Let it run, let it run, let it burn. Juste pour signaler pour ceux qui nous écoutent en FM pendant que du sport repose son micro proprement, je lui coupe le sien. Pour signaler que donc ce week-end aura lieu dans une charmante petite ville du Gers qui s'appelle Oz. C'est entre Auch et Mont-de-Marsan. Plus exactement, c'est juste après Vic-Fezensac. Vous prenez vers le nord, direction Condon. Et c'est pas loin du circuit Paul Ricard. Oui, mais le micro bleu ne marche pas, Dus. Voilà. Et vous aurez ce soir en concert le Boys Band Dessiné. Le Boys Band Dessiné, donc c'est un groupe qui a été formanté et monté par une partie de l'équipe marcinelloise de Spirou, du journal de Spirou. Donc on y retrouve l'un des coloristes à la base. À la base, on retrouve en tant que guitariste Jean-Ry, le dessinateur de Spirou. Il y a aussi Delporte, normalement, hein, je crois, qui joue toujours. Et plein d'autres choses. Donc ça, c'est ce soir, c'est gratuit, c'est à 19h, et c'est sur donc la grande place du village. Il y a des expos de planches originales, celle de Smoudja sera sur place, et Olivier Boiscommun, c'est à l'abbaye de Flaran. Et demain, de 10h à 19h, avec des séances dédicaces, avec une pause entre 13 et 15h, il y aura aussi des ateliers dessin, BD Tech, librairie fanzine, et parmi les dessinateurs qui sont toujours confirmés, il y aura HD, dessinateur de CRS Détresse et Nouvelles Aventures Lucky Luke, Joël Lazara, Takatakata, Baptême du Marsupilami, Frédéric Bézian, qui vient de faire Les Garde-Fous, Biz, qui est un dessinateur auto-édité, Olivier Boiscommun pour Halloween, Petrolino, Troll, Fabrizio Borini pour Karma, Al Coutelis pour AD Grande Rivière, Welcome Land, Le Grec, Philippe Delaby pour Morena, La Complainte des Landes Perdues, s'il vous plaît, DJ qui dessine Caméra Café, mais aussi les bébés de BD, Druyer, dessinateur immortel de Lone Sloan et de Salambo, Ernst, dessinateur de Génération Zap et des clins d'œil et des zappeurs, Jean-Luc Garrera, qui fait les vélos maniaques, ça c'est chez Bambou, JF qui fait Haute Sécurité et les Enchaînés, Patrick Goulesque qui dessine l'énigme de Pompina, c'est une bande dessinée enfantine et c'est donc chez Milan Édition, Jean-Ry, donc qui dessine le petit Spirou, qui a dessiné Spirou et Fantasio dans les années 80 et 90, Philippe Gerbinet qui fait Sam Break et Mémoire de Cendre, Patrick Lacan qui vient de sortir Triste Utopique chez Boîte à Bulles, Lesca qui dessine Les Brèves de Comptoir et Drôles de Cirque, Maester, dessinateur de Sœur Marie-Thérèse, Meurtre Fatal, L'Actutu, ça c'est une compilation des bandes des dessins de son blog, Lionel Marty pour Le Rêve de Jérusalem et Mort Lindel, Marc Moreno pour Petite Louve, Le Régulateur, c'est sorti il y a un bail chez Delcourt, Jean-Luc Mourier qui est le dessinateur du spin-off de L'Enfance de Troyes, Troll de Troyes, Laurent Noblet, les ados stars, Gilles Pascal, l'Irlandaise, les éditions du Point d'exclamation, Michel Pierret qui dessine les ailes décapitées, et il a aussi fait une hagiographie autour de Zidane, Gradimir Smudja qui dessine le bordel des muses, Vincent et Van Gogh, Benoît Socal, dessinateur de Canardo, Stiban qui fait Chevalier de l'Espalès, Caméra Café, mais aussi Sherlock Holmes, André Témant qui dessine Caroline Baldwin et qui donc désormais reprend Sibylline, Georges Van Lintoux qui fait Caméra Café, Twins, mais surtout Falkenberg, Vink, dessinateur absolument génial du Moine Fou et des Voyages des Pao, et Robert Widem Locher, dessinateur complètement fou et taré de Nabucco Dinosaur qui a repris Achille Talon. Donc tout ça, c'est demain. L'accès est gratuit, c'est ça qui est intéressant. Les auteurs sont accessibles. L'ambiance est vraiment extrêmement sympathique, à condition que tout le monde le reste. L'entrée est gratuite de 10h à 19h, c'est à Eos. Eos, c'est en allant vers Mont-de-Marsan après Hoche, et c'est juste après Vic-Fezensac. Direction Condon, n'hésitez pas à y aller, c'est une équipe très sympathique qui mène ça avec bonne humeur et joie, et en plus c'est vraiment, ça vaut le coup d'y aller. On peut aussi réserver le camping municipal qui a une piscine, ce qui est toujours très agréable. Les promenades aussi sont vraiment sympas, et on peut visiter les caves d'Armagnac, mais attention aussi quand vous reprendrez la voiture, hein. Voilà. En moins de 3 minutes, je l'ai tombé. On va entamer sortie bande dessinée, on va commencer par un collectif avec donc les Chroniques de Pékin. C'est un collectif qui vient de sortir aux éditions, qui ne vient pas de sortir, qui est sorti depuis un peu plus d'un mois aux éditions Chiaopan, donc sous le haut patronage, s'il vous plaît, de Benjamin et d'Olivier Vatine. Je crois qu'on a eu pire hein, quand même comme parrain. C'est donc des chroniques, des histoires courtes sur Pékin, mais sur, attention, c'est pas sur le Pékin tel qu'on le connaît actuellement, mais sur le Pékin tel que il est actuellement transformé par les Jeux Olympiques. On est vraiment dans quelque chose d'assez particulier, je vais dire, dans la date, sachant que les Jeux Olympiques, l'ouverture a lieu dans 5 jours. Et qu'est-ce qui a énormément changé justement dans la grande capitale du Nord. L'éditeur Chiaopan se concentre exclusivement sur les auteurs de la Chine communiste. On a déjà eu des heureux surprises, on a déjà plusieurs fois interviewé Patrick Albry qui est le
Abri
qui est donc qui est le fondateur et principal animateur des éditions Chiaopan. Et donc là c'est une compilation d'histoires courtes qui mate face aux contradictions de Pékin. À l'heure des changements, juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques. La Chine a beau être l'usine du monde, mais avant d'être un pays à l'économie de marché débridée, elle reste un pays communiste. Une dictature du peuple via un parti... Une dictature, c'est toujours envers le peuple. Via un parti unique, mais surtout une lutte permanente au sommet entre les progressistes et les conservateurs. Le meilleur exemple, c'est les revirements incessants du gouvernement. Par exemple, à propos de l'accès Internet pour les journalistes se déplaçant pour les JO. Ayant promis une liberté totale pour tous lors de l'attribution des JO en 2002, on a appris que finalement, même les journalistes auront un accès filtré. Donc, ils auront accès ni à Amnesty, ni au site de Reporters sans frontières, ni même à la BBC ou à Deutsche Welle. Et puis finalement, devant le tollé international, ils ont annoncé hier que finalement ça a s'allégé, mais que quand même, pour des raisons juridiques, ils peuvent pas permettre l'accès à tout et à n'importe quoi non plus. Oui, bon, d'accord. C'est un exemple de conflit dans les très hautes sphères du Parti communiste. Il y a aussi l'opportunisme économique, là où les conservateurs libéraux se mettent d'accord pour raser le vieux centre de Pékin, ou encore d'apprendre aux Pékinois de ne plus cracher par terre et de ne plus se balader dans la rue torse nu et de mettre un t-shirt. Alors imaginez que dans cette nation, et 1,3 milliard d'êtres humains qui vivent ces décisions politiques sur lesquelles il n'existe aucune alternative possible, et ben ils subissent tout ça. Et puis c'est tout. Et c'est exactement cette impression que l'on ressent à la lecture de cet album. Un manque étonnant d'enthousiasme pour les conservateurs, c'est l'occasion de gagner à tout prix. On imagine ce que ça va être, s'il y aura tricherie et tout ça hein, pendant les épreuves. On n'en sait rien, on suppose. Une occasion de propagande absolument fondamentale dans la lignée des Italiens fascistes, d'Adolf Hitler, des pays d'Europe de l'Est. Pour la frange progressiste, c'est une occasion de donner un coup de fouet économique, mais aussi de gagner un peu plus d'espace de liberté. Je vous laisse imaginer quelle est l'opinion des dessinateurs de bande dessinée de cet album collectif. Mais sans trop y croire, finalement. Pourtant, il y a un espoir, une envie, un rêve. L'histoire de Nye Jeon, par exemple, où il raconte celle d'une petite fille qui apprend à nager dans un arbre, et l'un de ces moments pureté qui font croire à l'idéal olympien. La chorale des anciens qui a composé un hymne dans son coin montre qu'on peut tous participer et finalement, est-ce que gagner c'est vraiment l'important ? Soutenu par Olivier Vatine et Benjamin, donc 10 auteurs chinois dessinés montrent l'impact qu'ont amené la préparation des JO à Pékin. Parfois positif, parfois négatif, mais toujours subi. Mais a muté aussi vite une ville millénaire à marche forcée, ça laisse des traces dans les esprits. Poésie et drame se croisent, destin brisé et instant de rêve se côtoient. On est assez surpris, on se dit que derrière le fatalisme, le terreau est prêt pour faire germer des idées, et on parle pas forcément de sport. Chronique de Pékin, c'est un collectif de 10 dessinateurs, ça vient de c'est sorti donc chez Chiaopan, c'est un bouquin format A5 en couleur, avec un graphisme, Thomas et du sport là, ils sont...
Généralement, quand tu as des albums collectifs comme ça, t'as toujours des parents pauvres dedans. Tu dis oh bon celui-là, bon on va acheter le truc collectif pour ce segment-là en particulier et tout. Ben là, on a l'impression que chaque segment se vaut et que chacun dans son style et en fait ça donne un ensemble au niveau qualité assez homogène et c'est ça qui est assez pas mal et plutôt. Plutôt nouveau en fait dans ce genre de bouquin en fait. Je sais pas ton avis.
C'est le mien justement. C'est qu'on est vraiment entré au niveau, mais c'est l'histoire en elle-même. On est surpris par la palette différence d'ambiance. Pour illustrer donc ce collectif sur les chroniques de Pékin, c'est un morceau qu'on a passé régulièrement auparavant un peu comme gag. Parce qu'on l'a chopé par hasard comme ça sur le net, ça s'appelle Tang Dynasty International, et en fait on a une histoire, on entrevoit un peu ce qu'a été Tang Dynasty au début des années 90, c'est eux qui ont plus ou moins fait rentrer le heavy metal, et comme il n'y a pas de maison de disques indépendante en Chine, de même qu'il n'y a pas d'éditeur indépendant en Chine, tout est lié à l'État, on imagine pourquoi ils ont fait cette reprise internationale, c'est pas par parodie ou tout ça, c'est juste qu'il fallait financer l'album et il fallait arriver à le faire passer. Donc ils ont commis cet instant musical qui illustre bien justement toutes les contradictions actuelles de la Chine. Une internationale en heavy metal avec les chœurs de l'armée rouge derrière. Ça claque. solo. Communiste après un truc comme ça.
Oui, tu as déjà la chemise rouge.
Pas exactement la même, mais on imagine, vous voyez, la motivation du groupe à avoir chanté ça, quoi. Ouais, bon, il faut qu'on fasse ça pour le morceau. Enfin, ceci dit, quelque chose de beaucoup plus léger et fun et sympa et mignon et kawaii et sucré tout plein.
Oui, on commence la petite thématique avec justement le compère qui arrive sur... Donc le thème du jour, ce sera les personnages kawaii venus d'ailleurs. Bonjour JB.
Non mais non, il aura le micro ouvert une fois qu'il sera bien placé.
D'accord.
Et tout ça parce que sinon,
et quand sera venu son tour surtout. Voilà. Alors pour l'instant, bonjour, nous JB. Parlons de bonjour. La bande dessinée Altadonna tome 2 chez Dargo. Tome 2 s'appelle Furet et Fureteuse et c'est par Mini Kim au dessin, Mariol au scénario et Pop à la colo. Alors à Altadonna, Nola en pince pour le mystérieux Damiano, mais lui et sa sœur Inès sont, disons, étranges. Surtout depuis les incidents du parc d'attractions. Nola a-t-elle vraiment chuté de plusieurs étages sans une égratignure? Pourquoi son ami Pumpkin ne se rappelle-t-elle de rien? Il faut dire que notre écolière se réfugie dans son monde imaginaire pour échapper aux cours barbants et compenser l'absence de sa mère droguée au travail. Son enquête sur Damiano dans l'enceinte de l'école va mener Nola à la plus étrange des révélations. Haha, mystère. Donc c'est une BD qui est clairement destinée aux ados, un peu plutôt féminin, mais pas que ados, hein, puisque même les gens plus âgés peuvent de toute façon tomber en admiration devant le dessin tout sucré de cette BD. On a l'impression vraiment d'avoir un bonbon à se mettre sous la dent, parce que c'est vraiment c'est frais, c'est sympa, c'est très joli. En plus, il y a les mines vachement mignonnes des personnages avec leurs bouts toutes rondes et leurs corps en spaghetti. Ils reprennent aussi pas mal de codes de manga, voilà. Donc c'est vraiment un truc à conseiller. C'est rigolo. rigolo, c'est mignon. Donc c'est destiné ben voilà aux filles adeptes du shopping de compétition, aux rêveuses qui décorent leurs agendas de petites fleurs, qui rêvassent. Par exemple, il y a Nola qui doit faire un exposé sur les furets. En fait, elle va dire ouais, donc les furets, en fait, c'est une petite race d'animaux, et puis en fait, ils sont super intelligents, et puis ils prennent soin de notre monde, et puis il y a des vaches volantes. Mais je t'avais dit de faire un exposé, sérieux. Ah ouais, mais en tout cas, c'est comme ça que ça devrait être, en tout cas. Donc c'est rigolo, et puis ça reprend un peu la même structure narrative que le tome 1, c'est-à-dire que ça commence. On pense que c'est une chronique d'où sa mère, d'une petite fille, d'une écolière qui est un peu délaissée par sa mère, qui est tout le temps au boulot. Et en fait, ça va progressivement vers une dose un petit peu plus fantastique et jusqu'à basculer dans les dernières pages vers un truc complètement inattendu. Et tu te dis, ah oui, donc il va falloir relire tout ça parce qu'il y a des indices qui ont été distillés un petit peu dans la bande dessinée. Je crois, oui, c'est une série qui est destinée à être en 3 tomes. Hein, donc ça, c'est déjà le tome 2. Donc c'est un mélange de chronique écolière et de petite dose de fantastique. On peut rien vous dire de plus parce que sinon on spoil et c'est pas cool. Donc voilà, juste pour faire baver mes collègues, je vous montre la petite dédicace que j'ai eue.
Oui, bon, ça va, on sait. Attention parce que en plus il y a les yeux qui bougent.
Eh oui,
c'est joli, c'est mignon, donc voilà.
On rappelle la référence Altadonna, tome 2, Furet et Fureteuse par Mini Kim, au dessin Mariol, au scénario et Pop à la colorisation, et c'est édité chez Dargo.
L'album qui est juste dessous la pile, à mon avis, devrait faire plaisir à JB.
Quoi ça là?
Je l'ai à la maison.
Précédente édition peut-être.
Oui, il y a au moins 10-15 ans. Ouais.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est une réédition d'Af. La vie, à quel prix? Enfin, en VO, c'est The High Cost of Living, le prix fort
de la vie.
La cherté de la vie, voilà. Et donc, c'est Neil Gaiman qui est au scénario, qui dirige ce personnage, qui est incarné graphiquement par Chris Bacalo, Mac Buckingham et Dave McQueen. Ça vient de ressortir plus exactement dans la collection Vertigo chez Panini Comics. On commence par l'histoire de Sexton Furnival. C'est un ado en plein mal de vivre. Son père se fait des... parce que c'est un avocat très riche, se fait des poufs en tout genre. Sa mère, elle est une gentille petite allumée et a décidé de faire le ménage dans sa chambre. Donc il a décidé de marcher au hasard dans New York. Il a fui ça. Ça le prend sur la tête. Il n'a pas vraiment le moral. Et ses pas vont le conduire dans ceux de Def. Car ça arrive comme ça une fois tous les 100 ans. Def, la mort s'incarne parmi les humains et vit parmi eux. Et vit comme eux surtout. Là où Book avait personnifié la mort de manière classique, vous savez, le squelette, le suaire, la faux, avec un Lao Tzu réincarné en cochon, Neil Gaiman en fait la petite sœur de Dream. Une jolie fille, un joli brin de jeune fille au teint un peu pâle, un collier avec une hanque, un smiley accroché à sa veste, un haut de forme, une joie de vivre irrépressible, voire un peu barrée. Quel moment étonnant que la mort aime vivre. Juste pour se prendre conscience ce qu'est que la vie et pourquoi la perdre est si dramatique justement pour les humains éphémères. Sexton se retrouve embarqué pour une journée étonnante dans la Grande Pomme. Une journée où tout le monde se montre aimable et où aussi d'étranges personnages rôdent, des clodos qui cherchent des objets inconcevables. Le symbole de la mort, le symbole de la vie, ou bien un cœur qu'on a oublié quelque part. Ou alors, celle qui se fait accompagner d'Eph n'est peut-être qu'une adolescente aux idées complètement dérangées par la disparition brutale de ses parents, à y savoir. D'Eph fait partie d'une étrange fratrie imaginée par l'humanité et repensée par Neil Gaiman. Si je demande à JB...
Sandman surtout, puisque c'est tous les personnages que tu vas citer sont tous les protagonistes importants de Sandman.
Sauf que Sandman...
C'est le maître des rêves, c'est-à-dire Dream.
Il s'appelle Dream, voilà, parce qu'ils commencent tous par la lettre D. Donc il y a dans l'ordre Delirium, Desire, Despair, Destiny, Destruction, Dream et donc Duff. Cette mythe revisitée d'une manière inédite que je vous invite à découvrir pour tout vous initier à l'œuvre protéiforme de Neil Gaiman. JB là-dessus est beaucoup mieux placé que moi pour parler justement de l'histoire de cette fratrie et de Sandman.
Tout à fait, effectivement. Bon, ça fait Faut que j'en parle, c'est ça. Ok,
ouais.
Tu m'as eu.
Ouais.
Non, c'est effectivement une bande dessinée inventée par Gaiman, qui était justement le point de départ de sa longue carrière, et qui fait que ça a explosé, et pour laquelle il est renommé surtout pour ça, ensuite par ses bouquins, et maintenant par quelques de ses scénarios pour le cinéma, comme Beowulf, comme on l'a pu le voir récemment, ou Stardust, qui est sorti depuis peu. Et Gaiman, avec son Sandman, c'est 75 petits épisodes. Il avait dit que ça finirait à ce numéro-là et ça bougera pas plus. Souvent, la plupart du temps, ce sont que des one-shots. Vous pouvez en prendre un au hasard, il n'y a pas de problème. Vous rentrez dedans, vous ressortez et vous prenez ce qu'il y a avec.
C'est des vraies mini-séries, quoi.
Il y a quelques mini-séries de 6 épisodes ou 8 épisodes, parce que des fois il faut quand même avoir une petite trame rouge pour que les lecteurs continuent à suivre. Et c'est bourré d'allusions à tout ce que vous voulez, autant à surtout de la mythologie grecque, égyptienne, ce que vous voulez, tout en des choses tout à fait anodines comme notre vie humaine ou par exemple la vie des chats. Il y a une BD sur les chats, il y a une BD sur que devrait faire une méduse une méduse, je pars de l'entité mythologique qui fait que elle ne peut pas
regarder
mourir.
Les gens et elle ne peut
elle est éternelle mais si effectivement les gens la regardent, et ils sont transformés en statue de sel et elle en a marre de cette vie là. Je vous en dis pas plus, c'est la plupart du temps c'est vraiment intéressant.
Ouais, qu'elle joue aux échecs sur internet.
Aussi, voilà.
Deux petites surprises dans donc Def, la vie à quel prix. La première, c'est une préface de Tori Amos. Et selon certaines rumeurs, l'ami chanteuse Neil Gaiman l'aurait plus ou moins inspiré pour le personnage.
Absolument. Sûr et certain.
Neil Gaiman l'a toujours nié. Mais peut-être que dans son inconscient.
C'est quand même flagrant quand tu vois les bandes dessinées.
Voilà, exactement. La deuxième, c'est à la fin de l'ouvrage. C'est 6 planches illustrées par Dave McKean, où Def sensibilise sur le sida. Le nom originel des planches, c'est Def Talks About Life. Et sur les moyens de se préserver du sida. C'est avec humour, poésie. C'est aussi un signe que cette BD a été écrite en 92 et qu'à l'époque, la communication institutionnelle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal sur le sujet du sida. Ce serait bien si dans la foulée on avait aussi une réédition de la deuxième mini-série consacrée à ce personnage, Le Temps d'une Vie. Def, la vie, à quel prix? C'est de la poésie pure, ni plus ni moins. Autre chose, c'est pas des côtés super-héros complètement déjantés avec des super-pouvoirs et tout ça. Non, non, c'est vraiment quelque chose d'onirique. Dans la vie quotidienne, sur un scénario de Neil Gaiman et au dessin Chris Baccalo, Mac Cunningham, Dave McQueen, c'est dans la collection Vertigo chez Panini Comics. Je crois qu'on va. Ah! Du sport, il a quelque chose à dire à propos d'Astro City. Retour arrière, puisqu'on en avait déjà parlé.
Ouais, rewind, la semaine dernière d'ailleurs. Hein. Astro City, donc sorti chez Panini, c'est la collection Wildstorm Signature, hein, c'est-à-dire le label indépendant de DC Comics. Et c'est réalisé par l'excellent, mais alors là il me tue de plus en plus, hein, on avait déjà chroniqué il y a un an, deux ans et tout, le bouquin sur la genèse de Superman qu'il avait fait avec Stuart Timonen. C'est Kurt Busiek, donc au scénario, il y a également, attends putain, faut que je retrouve Alex Ross qui fait les couvertures, parce que ce sont plusieurs petites histoires. Et le dessinateur, bon, je le trouverai pas, quoi, mais bon. Et Brent Eric Anderson, donc, qui dessine tout le reste. Alors, plusieurs petites histoires, donc, qui sont toutes basées dans cette ville qui s'appelle Astro City. Et là, où on pourrait croire au départ, vu la couverture, qu'il s'agit d'un énième bouquin qui prend comme héros des super-héros, justement, hein, que ce soit des super-héros majeurs, voire mineurs, comme la tendance a l'air d'être, en ce moment, la tendance, que ce soit chez DC ou chez Marvel, a l'air d'être de réhabiliter d'anciens super-héros mais secondaires, hein, c'est-à-dire on va pas prendre les grosses pointures, les devants de vitrine, à savoir Spider-Man, Batman, les X-Men et tout ça. Non, non, on va prendre plutôt des super-héros secondaires et tout, on va essayer de les développer parce que justement, hein, bon, il faut les réhabiliter, il faut les remettre un petit peu plus, il faut qu'ils aient un petit peu plus de répondants, on va un petit peu plus les développer, ils ont pas été développés de par le passé. Donc on part pratiquement pour les scénaristes d'une page blanche, on va dire, et donc on peut imaginer tout et n'importe quoi. Mais la grosse surprise de Astro City, c'est que si super-héros, il y a bien entendu dans pratiquement toutes les histoires, hein, je crois qu'il y a 6 ou 7 histoires différentes, eh bien c'est que ces super-héros ne sont pas les protagonistes principaux des histoires, mais au contraire, eh bien ce sont les êtres humains, à savoir les gens, la vie de tous les jours qui habitent dans Astro City, qui sont eux les héros des histoires qui sont contées dans Astro City. Et c'est là que vraiment Kurt Busiek réussit à faire vraiment très très fort, hein, c'est-à-dire à nous intéresser au travers d'histoires assez courtes, au travers d'événements qui ont l'air, on va dire, un petit peu assez quotidien, on va dire, hein. On plonge dans le quotidien de personnes, hein. Ça commence par une histoire d'un maître d'hôtel qui va renseigner les gens quant à savoir ce qu'il faut faire quand on vient visiter Astro City. Et alors, tac, d'un seul coup, t'as un super-héros qui est en train de combattre un super méchant. T'as un poussez-vous parce que ça va faire des éclats, enfin des trucs comme ça. Et chaque histoire est développée pratiquement de la même façon, hein, à savoir que ce sont des personnages, des gens de la vie de tous les jours qui sont les héros de la petite histoire, agrémentés bien entendu avec la présence de super-héros qui vont interférer un petit peu, mais qui sont vraiment là pratiquement en tant qu'épiphénomène en fait de l'histoire qui est narrée. Là c'est vraiment très très fort, là Astro City c'est comme il parlerait aujourd'hui, c'est de la balle, vraiment sans problème. Vous pouvez prendre Astro City héros locaux, donc terrible.
En tout cas, pour moi, c'est toujours un gros coup de cœur, cette série, puisqu'elle revisite énormément, justement, le côté super-héros. Mais par contre, elle s'adresse vraiment à des spécialistes, hein, à des gens qui connaissent déjà l'univers des super-héros.
Pas tellement, en fait. Justement, c'est ça qui est très intéressant, hein, c'est que, on n'a pas besoin d'être calé, de connaître toute la dynastie des super-héros, parce que, en plus, ce sont vraiment des super-héros qui sont inconnus de la plupart du grand public, hein, sans problème, hein. Enforcer, le Samaritain et tout ça, vous pouvez toujours courir, hein, pour les connaître. Faut vraiment être
exclusivement créé pour l'univers
Le Samaritain et Enforcer que je viens de citer justement sont déjà des super-héros qui sont apparus, mais vraiment à des occasions sur un voire deux épisodes dans l'histoire des comics.
Et est-ce qu'il y a une fin là, ou est-ce qu'il faut racheter les suivants?
Ah non, ce sont des histoires complètes, des petites histoires courtes complètes, hein, c'est-à-dire qui font quelques pages, une quinzaine de pages et tout. Il y a une histoire en deux parties.
Ah ok.
C'est l'histoire de l'avocat, hein, qui est vraiment très très bien. Mais il y a pas de problème, hein, c'est vraiment superbe, hein, vraiment superbe.
JB, lâche ça. Et oui, tu as une surprise pour moi.
Nous allons.
Pardon. J'étais censé faire la surprise.
Voilà.
Non, j'y crois pas. JB a fait une chronique.
Oui. Alors,
c'est pas arrivé depuis 6 ans.
En fait, Xavier est en train de perdre son pari, car il avait. Alors, je sais pas, si c'était hors antenne ou à l'antenne.
C'était hors antenne.
Hors antenne, il avait dit, on parie que t'es pas capable de faire une vraie chronique en préparant un sujet et venir nous parler de quelque chose ici. Et alors,
je sabote pas.
Voilà, alors cette idée de JB, au lieu de garder la surprise, il s'est senti obligé d'appeler Xavier pour lui dire, ouais, mais il faut, tu vas voir, j'ai un truc et tout.
Non, je suis un petit peu obligé de l'avertir tout de même, parce que sinon il allait dire, ah non, pas cette semaine. Mais désolé, mon petit gars.
Non, mais
vous auriez pu tricher, je sais pas. Thomas qui me dit, ah, j'ai une chronique.
Non, mais justement, JB, je suis responsable de ma rubrique ici.
Ah, mais je te la laisse.
Voilà.
D'accord, on y va. La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par JB.
En plus, ça tombe bien parce que j'avais préparé un petit truc aussi hier soir et j'ai oublié de l'imprimer.
Cool.
Donc je te laisse JB.
Donc nous sommes allés voir, Thomas et moi, nous sommes allés voir Wall-E, le tout dernier film de Pixar. Effectivement, c'est le dernier fleuron. Pixar, vous savez ce que c'est. Ce sont ceux qui ont fait par exemple Monstres et Compagnie, Toy Story, Les Insoutibles, ou dernière en date, Ratatouille. Bon, mais en fait, Wall-E raconte la rencontre entre deux robots, Wall-E et Eve. Autant Wall-E fait sembler un petit titi, genre un robot mécano avec toute sa graisse et toute sa crasse, impossible à enlever, autant Eve, bon, ce qui signifie évaluatrice de végétation extraterrestre. Voilà, vous le savez, vous l'oubliez, vous verrez le film après. Autant Eve semble tout droit sortir d'un clip de Björk, vous savez, le clip de Chris Cunningham avec des lignes courbes épurées, des blanches, avec une certaine blancheur immaculée.
Mais Xavier, il en parle 15 fois par semaine de façon incertaine.
Ah, d'accord.
Tu sais que même William Gibson, il s'en est inspiré pour faire un bouquin sur... Non, pardon, ok.
D'accord. En tout cas, on sait que Mac, enfin Apple... On sait qu'ils ont bien pompé, ou alors que c'est l'inverse. Hein. On voit très bien que pourquoi Pixar a appartenu à Apple et on a gardé des séquelles.
Ils n'ont pas appartenu, ils ont le même actionnaire commun, c'est différent.
Ils ont appartenu à un moment. Et c'est Jobs qui a revendu à Disney.
D'ailleurs, en plus, pour compléter ça, il y a...
C'était les parts de Jobs.
C'était les Apple, parts de Jobs, mais c'est... majoritaire.
Oui, mais c'est pas, ça appartenait pas à Apple. Faut pas oublier que Pixar est une boîte de production d'ordinateurs.
Tout à fait.
Pour compléter justement ce que JB disait, puisque Eve, le design d'Eve ressemble, enfin, à un lien de parenté avec le design des produits Mac sur les iPod et tout, c'est pas innocent puisque... C'est pas innocent puisque c'est le designer de l'iPod qui a été justement mis au charbon pour faire le design d'Eve.
D'accord, je l'avais pas vu au crédit moi. Donc en fait le film se déroule, bon, sans trop vous dévoiler, entre deux parties. La première se passant sur ce qui reste de la Terre, on va dire au 22e siècle, avec un scénario plutôt digne héritier, moi je trouve, des films de Jacques Tati ou des Marx Brothers. Les paroles sont quasiment réduites qu'au boutage. D'ailleurs, mention spéciale à ce sujet, réussite totale à ce bruiteur, déjà connu pour les bibibs de R2-D2, dont... On sait très bien, Xavier ne fait que nous répéter hors antenne. Le film prend son temps. Je n'ai pas dit le robot de Buck Rogers, attention. Ça y est, c'est fini. Le film prend son temps avec des airs romantiques et poétiques, sans tomber dans la mièvrerie. À mon avis, le public européen devrait vraiment se régaler. La deuxième partie est vraiment mariée plutôt les films d'action à l'américaine. Une mouture très classique, on a vraiment l'impression que Disney reprend les rênes. Cela reste très correct, mais disons restons un petit chouïa sur notre fin, en comparaison de la première partie vraiment fabuleuse. Bon, effectivement, ça bouge, ça secoue, ça n'arrête pas jusqu'au générique final, sur lequel nous sommes particulièrement restés accros. Les mecs de Pixar sont réellement fait plaisir tout le long du film, et nous font de jolis clins d'œil à la fin. Le film extrêmement plaisant pour les enfants fait tapis rouge au clin d'œil, pour que les adultes soient tout autant charmés, excusez-moi. D'un Wall-E en E.T. façon Spielberg au thème de 2001, lorsque le capitaine du vaisseau spatial commence à marcher. Mais bon, mes chutes, ce serait trop vous gâcher le plaisir. Et nous vous conseillons vivement de ne pas rater la prochaine séance. Merci Xavier.
Alors il faut juste un peu compléter, puisque là tu faisais allusion à des gens, des humains qui étaient dans le vaisseau. Il faut savoir que ce sont des humains qui ont oublié qu'ils venaient de la Terre. Enfin, ils ont un peu gardé quelque part, mais ça les arrange bien d'être en dehors de la Terre, parce qu'ils ont passé leur temps à rien foutre, à rester à la romaine, hein, sur des lits, en train de... Voilà, ils se déplacent
en
jamais.
En train de jouer à Pong et en train de se dire « Ah tiens, il y a une piscine. Ah ouais, ouais, depuis 700 ans, elle est là. On l'avait non, jamais vue. »
Voilà, et donc justement biologiquement ils ne sont quasiment plus capables de marcher, puisqu'ils sont restés toute leur vie à être obèses et à être allongés sans marcher.
Voilà. Ça vous apprendra à surfer sur YouTube.
Voilà, tu parlais de 2001, l'Odyssée de l'espace. Il faut savoir aussi que Pixar n'en est pas à sa première allusion à 2001, puisque dans Toy Story 2, dans l'intro, quand on voit Buzz l'éclair affronter un méchant, quand il marchait sur, je crois que c'était sur la Lune ou sur une planète hostile, quand à chaque fois qu'il marchait, c'était sur des marches lumineuses. À chaque fois qu'il faisait un pas, il y avait une note supplémentaire du thème de 2001.
D'accord.
Ça c'est Rencontre du troisième.
Ça c'est Rencontre du troisième team. Mais comme tu avais chanté Bioman sur Godorak, je me suis planté moi aussi.
Bref, pam 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 pam.
Voilà. Et il y a aussi, un joli clin d'œil concernant Sigourney Weaver à la saga Alien, puisque c'est Sigourney Weaver qui joue, qui fait la voix, qui donne la voix au robot de la station spatiale Axiom. Joli clin d'œil, puisque quand on sait que dans Alien, elle se battait contre l'ordinateur Mother.
D'ailleurs, voix reprise par notre cher confrère Pascal Clark dans la version française,
voilà,
qui est tout à fait honorable.
Et il y a aussi, il faut savoir aussi que Pixar n'en est jamais à une expérimentation près, puisque c'est le premier film de Pixar où on peut voir de la prise de vue réelle dedans.
Ah bon ?
Ah bon ? Ah mais oui, je l'ai vu, mais je sais pas. Tu me l'apprends.
Oui, effectivement,
il y a des personnes réelles filmées et intégrées dans le dessin animé, effectivement par écran interposé, c'est nickel. D'ailleurs, à ce sujet, pour la version française, j'étais personnellement très étonné de voir par exemple, vous voyez une affiche pour une boisson quelconque en tant que publicité, tout était marqué en français. Les publicités, les tracts, tout ça dans un dessin animé, j'ai trouvé qu'ils ont fait très 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 fort.
Alors hors antenne, pour préparer cette chronique que nous n'avons pas préparée avec JB, JB me parlait justement d'une critique sur Télérama où ils ne sont pas parvenus à s'entendre pour faire une critique ou pour ou contre, donc ils ont fait une critique pour et contre. Vous nous connaissez sur cette antenne, on ne va pas évidemment vous lire la critique pour, ce serait trop facile puisque on a aimé nous aussi. On va peut-être vous lire plutôt certains passages de la partie contre, qui est assuré par Aurélien Ferenzi. Alors, le lecteur de Télérama ici, c'est JB.
Oui, tout à fait. Mais je suis carrément abonné à Télérama. J'apprécie beaucoup cette revue.
Vous comprenez pourquoi il a fait que la saison moins 1 du supplément week-end.
Alors, on va lire certains passages. On se lance. Et tant pis si cet éclat déclenche un feu nourri d'invectives. Voilà. Wall-E est un film qui confond poésie et mièvrerie et pour qui l'écologie n'est qu'un prétexte saisi dans l'air du temps pour dérouler mollement une histoire tire-larme. Alors ça veut dire qu'à partir du moment où tu fais un truc ou un peu avec un peu d'émotion, déjà tu es catalogué, c'est tire-larme, c'est pas bien. Bon déjà, ok. Que l'animation 3D c'est blockbuster calibré pour plaire au plus grand nombre, ici dialogue minimal égale spectateur de 3 à 93 ans. C'est plutôt l'inverse. À partir du moment où t'as pas de dialogue, c'est vachement expérimental et justement, tu te prives de certains spectateurs. Voilà, bon, le mec il a rien compris. Deviennent des parangons de sensibilité et de recherche esthétique ? Non, ça commence à faire trop. Mais les robots amoureux, les machines nostalgiques de l'humanité qui queenent un discours écolo à deux balles, permettez-nous de ne plus être dupes. Alors, à partir du moment où tu fais un film à message, hein, discours écolo, film qui dit oui...
plus assez de gauche.
Voilà, faut protéger la planète, ou même le trafic d'armes c'est pas bien, le trafic de prostituées c'est pas bien, alors à partir du moment où tu fais ça, ben voilà, c'est à deux balles, et puis c'est un peu... c'était un peu catalogué également. La seconde partie du film dans le vaisseau où mutent des humains obèses, comme les spectateurs de Wall-E outre-Atlantique, est un sommet de laideur et de bêtises. Alors Leader, je sais pas où ils l'ont trouvé, parce que plus beau rendu, plus belle mise en scène que les Pixar, tu peux pas faire en film d'animation récent.
Non.
Et voilà pour la laideur et pour c'est un sommet de bêtises. Oui,
non, pas possible aussi.
Non plus.
C'est ce qu'il vient d'écrire pour le sommet de bêtises.
Mais je pense que
bon, vous voulez mon avis.
Il est temps pour lui que cela cesse.
Non, il s'avère aussi que ce cher monsieur Ferenczi, c'est pas la première fois que je lis une chronique, je trouve vraiment à côté de sa plaque dans la semaine. Je pense qu'il a bien besoin de prendre peut-être quelques vacances. Il suffisait juste de lire la chronique télé qu'il a fait pour le dernier Batman, qui est sorti sur France 2 mardi dernier pour Batman Begins, qui est quand même un Batman très très correct en comparaison des 2, 4, 5 et 6, non pardon, des 3, 4, 5 et 6 qui étaient sortis juste avant.
Honnêtement, il tient en comparaison avec les Tim Burton et des fois le dépasse.
Non, voilà. Je dirais pas jusque là, mais par rapport à Schumacher, non, je dirais que Burton de toute façon est au-dessus.
Non, mais avec Chantal, on a fait un pari, c'était quels sont les Batman qui ressemblent moins à des Batman. Alors on hésitait entre Batman et Robin et...
Les deux Schumacher.
Et voilà.
Schumacher ou Schumacher? Parce que c'est un américain.
Bah, je sais pas.
On s'en fout, on est en France, on prononce comme on veut.
Ouais, voilà. Je vais demander un hamburger au McDo d'ailleurs.
Et ah oui, alors juste JB a été dithyrambique, on pourrait juste reprocher au film Wall-E quand même une quelques longueurs, justement quand il y a Wall-E qui découvre le vaisseau Axiom, Parce que là, pour ma part en tout cas, c'est trop long, et puis ils auraient pu en dire autant en raccourcissant un petit peu.
Ouais.
On voit, c'est un peu trop une démo, genre ils ont fait plein de croquis préparatoires pour trouver des robots, et puis ils ont eu les larmes aux yeux quand il a fallu jeter, donc ils ont voulu absolument en caser le maximum en faisant des couloirs pour les montrer. On a un peu cette impression-là, mais bon, après, on chipote.
Moi personnellement, par rapport à tout ce qui sort en animation, même ressorti récemment par rapport à Kung Fu Panda ou autre, moi je trouve que Pixar, c'est toujours quand même le haut du panier.
Ah oui.
Et c'est très difficilement non les gars, vous y arriverez pas tout de suite quoi.
Allez,
alors on rappelle juste la référence, Wall-E, le nouveau film des studios Pixar, et c'est réalisé par Andrew Stanton, qui est déjà réalisateur du Monde de Nemo, de Mille et une Pattes, et scénariste de Monstre et Compagnie.
Eh oui, obligé.
Hein? Kraftwerk.
Ouais, c'est bien, t'as regardé le planning.
Non, pas du tout, je connais très bien ce morceau. Oui, Adorobot, tatatata.
Yeah.
essayer de faire un remix parce qu'en fait je me suis trompé, j'ai oublié que c'est du sport, m'avait filé le CD et tout le reste. Du sport pour la littérature.
Attends, avant de parler littérature, je crois qu'il y a un événement spécial aujourd'hui.
Il fait beau.
Je sais pas, il y a quelqu'un qui est pour célébrer la sortie de la chemise hawaïenne, je crois qu'il y a quelqu'un qui est vieux aujourd'hui.
Ah ouais.
C'est ça, vas-y, compare-moi à Magnum PI.
Ah, t'as pas encore la moustache, t'as pas encore l'âge.
Voilà. Et t'as jamais joué au foot américain.
Oh, mais je vais conduire des Ferrari, ça continue.
Ouh, d'ailleurs, c'est, il reçoit un cadeau aussi rouge qu'une Ferrari.
Merci Thomas. Alors, c'est un gros truc qui fait format d'environ 25 sur 18 sur 8.
C'est un parallépipède. Rectangle.
Emballé dans du rouge, donc ça ne.
À mon avis, c'est sexuel.
Alors en plus, c'est marrant parce que offrir un cadeau à un geek, il va essayer de trouver dans un coin un logo qui pourrait aiguiller sur l'identité du cadeau.
Galaxy Railway.
Il est en train de déballer son cadeau. Il est en
The
train
Galaxy Railways, d'accord, c'est l'édition collector de la suite de Cosmos 1999, Les Origines de Albator, si je me trompe, c'est ça?
Je crois, j'ai pas vérifié entre temps.
C'est justement Cosmo Warrior 0. Punaise, absolument gigantesque. Alors ça, c'est un très beau cadeau, je t'en remercie. Parce que quand ça passait sur France 4, c'était en journée, donc je faisais semblant de bosser. Donc voilà. Attention, il y a DVD et livret de bonus.
Ouh, c'est trop cool. Je te fais la bise.
Mais sans la langue, hein.
Et il s'approche de Thomas langoureusement. Et là, oh mon dieu, non, c'est indescriptible.
Mais un peu court, ça aurait été mieux été sur. Ah, mais du sport m'a sorti quelque chose.
C'est rouge aussi.
C'est rouge aussi.
C'est un parallépipède aussi.
D'accord. Oui. Vous doutiez que j'allais sortir cette chemise, c'est ça, comme l'an dernier?
C'est ça.
Ouais.
Sponsorisé par une grosse marque
de voiture.
Vagin.
Mais qu'est-ce
Alain
donc
Carazé, les séries télé, l'histoire, les succès, les coulisses. Et ça va faire plaisir à Chantal. Et Desperate Housewives avec leur fameux gâteau.
Et Dr Spock.
En haut.
Et la série qui, à mon sens, mérite de vivre.
Oh non, pas Doctor Who.
Non, c'est anglais quand même, mais loupé quoi.
On voit mal de loin.
IT Crowd.
On va tous les citer. Barnaby, State of Play.
Non, bon, alors attends. Bof TV.
Alors attends. Mais...
Bof TV, j'ai gros doute là.
C'est anglais alors.
Ah, c'est The Avengers.
Bon, gagné. Chapeau melon et bottes de cuir.
Ah, bah, j'avais pas reconnu le chapeau.
Ta-da !
Non mais ah oui, c'est un vrai guide. Oh putain. Ouh. Je crois qu'il va avoir des heures de lecture, de lecture, de lecture, de lecture, de lecture, de lecture. Merci beaucoup, Dus.
Oui, mais en plus c'est carasé, donc tu peux être sûr que c'est qualitativement
très bon.
Nickel, quoi. Y a pas de problème.
Il est très très bon. Tu sais qu'il a découvert des gens qui ont droit à un dossier spécial dans le Technicard sorti aujourd'hui.
Attention, c'est la revue de presse.
T'achètes On n'a pas eu le temps de le regarder ni quoi que ce soit, mais il y a un gros dossier hors série dans Technicart.
Pour les
geeks. On peut pas se tromper. En une, c'est Jack Bauer. Voilà, hein, pour la saison 7
de 24,
qui s'annonce. Et dedans, il parle d'une série dont on va bientôt vous
passer l'interview. On vous a déjà parlé 150 fois, mais on va bientôt vous en reparler encore.
D'ailleurs, Davy m'a beaucoup surpris quand il m'a dit « Ouais, tu nous as fait une pub d'enfer et tout. » Ah bon?
Nerds.
Ah oui.
Nerds. Regardez là.
C'est marrant parce que
c'est
rigolo parce que les séries normales en fait, même quand elles sont vachement confidentielles, t'as toujours des gens pour les avoir vues. Mais là, si t'es pas geek, tu peux pas l'avoir vue.
Oui. Mais même si on est geek, on n'est pas geek.
Voilà, même si on est geek, on risque de pas l'avoir vu non plus. Donc tu dois encore convertir des gens, Xavier.
En même temps, le premier DVD est à 15€ et le coffret de la saison 2, 3 DVD, c'est à 20. Il n'est pas encore sorti, on passera début septembre l'interview. Et plein d'autres choses, il y a vraiment des trucs qui sont pas mal. En tout cas, moi je vous remercie énormément pour tous les deux. Ça va radicalement faire évoluer ma productivité, je pense.
On a pensé à ça en fait.
Bande d'enfoirés.
Ouais, The Wire, excellent.
Ah, il y a pas que ça, il y a pas que ça.
Ah hein, bah attends. Ouais. C'est une des seules raisons pour lesquelles Technic Art a encore un petit peu d'estime dans mon cœur et tout, c'est qu'ils défendent corps et âme la série The Wire qui a été sabrée en France hein, dont on n'a pu voir que la première saison alors qu'ils en sont déjà à la 5e ou la 6e saison. Hein, bon pour cela bon, il faut quand même tirer un petit coup de chapeau. Allez, on parle un petit peu bouquin à présent avec Emmanuel Petit.
Et 2 et 3 et 0.
C'est lui qui marque le troisième but. Hein. Voilà. Okay. À fleur de peau. C'est le sorti chez Prolongation. Donc. Alors bon, si vous ne l'avez pas loupé, hein, il est en tête de gondole dans pratiquement tous vos supermarchés favoris. De toute façon, bon, j'irais vu le prix, hein, c'est un peu abusé quand même. Quoi. Mais enfin bon, Petit qui a tenu à écrire son bouquin, c'est-à-dire il n'a pas pris un nègre. Traditionnellement, on se fait copain avec un journaliste et tout, puis c'est le journaliste qui écrit et puis qui, enfin, en fait, c'est des dialogues, on répond à des questions, puis après le journaliste met en forme parce que lui, l'habitude, c'est son métier. Non, il a tenu à écrire son bouquin lui-même. Bon, pour une raison toute simple, c'est que bon, il explique dans le bouquin, c'est que tout jeune, il a tenu des carnets intimes, des machins comme ça, qui l'ont suivi, quoi, jusqu'à la mort de son frère à un moment donné sur un terrain de foot, quand il était footballeur à Monaco, hein, il débutait sa carrière pro à Monaco, et bon, bah, son frère, qui, soi-disant, était plus doué pour le foot que lui, qui était meilleur que lui en foot, bah, se trouve la mort sur un terrain de foot pendant un match de foot. Et là, bon, bah, il a balancé tous ses carnets et tout, mais il a toujours eu un petit peu cette passion de l'écriture, hein, comme ça. Bon, bah, il raconte sa vie, c'est assez bien foutu quand même, hein, c'est-à-dire, bon, bah, c'est chronologique, et il y a quelques petites parties qui sont très sympathiques. Alors, on a beaucoup écrit sur ce bouquin au niveau des critiques, comme quoi, eh bien, c'était très polémique, qui crachait dans la soupe, mais en fait, il ne fait que rétablir certaines vérités qui sont tout à fait louables, hein, on a tendance à trop un petit peu embellir le monde du football et tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, alors que c'est vraiment pour un sport co un monde où tout le monde ne pense qu'à sa gueule, hein, et ça va de pire en pire de toute façon. Enfin là, je vous apprends pas grand chose. Il y a également beaucoup de banalités aussi. Hein, c'est clair. Bon, il explique, hein, de toute façon, il le dit bien lui-même. Hein, il a pas une éducation bac plus 8, ça c'est clair. Hein, il a dû se barrer assez vite quand même de l'école pour justement bah, suivre cette carrière professionnelle de footballeur. Et donc, entre autres banalités, alors il y a un truc qui m'a fait beaucoup rigoler, et tout quoi, parce que c'est le genre de truc qu'on n'ose même plus sortir, quoi, tellement c'est énorme. Si il y a juste Thierry Roland qui arrive encore dans ses commentaires à sortir des trucs comme ça, bon, ça nous fait rigoler maintenant. Mais enfin bon, on retrouve ça chez Daniel Puté, quand il parle du match contre l'Italie, demi-finale de la Coupe du Monde en 98, hein, juste avant le match du Brésil et tout, quoi, et juste avant le match, et il dit, je cite, on connaît les Italiens par cœur pour les avoir affrontés à maintes reprises, que ce soit en club ou en sélection. Nous savons tous qu'ils vont essayer de jouer à l'italienne, de tirer les maillots, de multiplier les simulations. Bon, ben ok, d'accord, on est là, on applaudit, on est très rigolo. Et le passage qui a fait beaucoup écrire et sur lequel se sont focalisés pratiquement tous les critiques et tous les gens qui ont parlé de ce bouquin, c'est bien entendu l'attaque entre guillemets en force contre Zidane et contre le milieu des Bleus de 98 et tout, dont il ne fait pas partie. C'était le seul à ne pas venir lors du match.
Un des seuls, il y en a eu d'autres.
Non, c'est le seul. Hein. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir parce que bon, ils étaient empêchés techniquement. Il y en a un autre qui jouait à l'autre bout du monde, donc c'était un petit peu chiant de le rapatrier de Tahiti, quoi, pour venir juste disputer un match. Mais lui, bon, bah ok, il était à Paris. Hein. D'ailleurs, il faisait la promotion de son bouquin en même temps.
Même moment, ouais.
Au même moment, donc bon bah ok, il aurait pu au moins se rendre dans le stade et tout, faire salut comme ça en jean et t-shirt, mais il a pas voulu parce que bon bah ça le faisait chier, quoi. Bon, il s'en explique dans le livre d'ailleurs pourquoi, hein, les commémorations, les hommages et tout, il s'en explique. Et il explique également, bon bah c'est pas vraiment un désaccord, mais pourquoi, bon bah lui et Zidane, ça a jamais été vraiment des potes, quoi, hein. Il faut dire, bon bah ce sont des professionnels, ils jouent au football dans la même équipe, mais ils ont pas besoin, et ça il l'explique à plusieurs reprises dans son bouquin, au fur et à mesure de sa carrière sportive, parce qu'après Monaco il s'en va à Arsenal, puis d'Arsenal il va retourner à Barcelone, Chelsea, retour en Angleterre. Donc bon bah il explique que bon bah t'as pas besoin d'être pote avec un mec pour bien jouer au football avec lui. Bon bah c'est clair et net. Et à propos de Zidane, alors là ça vaut le coup parce qu'on a beaucoup souvent les excerpts qui ont été faits quoi à propos du livre, les seuls extraits qui ont été cités, bah c'est les extraits à propos de Zidane, alors qu'il y a quoi, il y a bon, on va dire une quinzaine de lignes, c'est tout hein, à propos de Zidane. Alors il dit parler de Zidane, c'est déjà rentrer dans une autre dimension. Il bénéficie d'une telle aura médiatique qu'il est devenu intouchable. Quoi qu'il fasse de mal, on essaye de tourner l'affaire à son avantage. Son expulsion en finale de la Coupe du Monde 2006 est en effet le plus bel exemple. Pour moi, les deux sont coupables, le provocateur comme celui qui répond. Quand j'entends ensuite le président de la République déclarer « La France vous pardonne », je ne sais plus quoi penser. Je ne me reconnais pas dans cette France-là. Le geste de Zidane n'a aucune légitimité. Il est irresponsable. S'il avait terminé le match, la France aurait une grande chance de remporter à nouveau la Coupe du Monde. Il aurait achevé sa carrière sur un titre surprenant. Derrière, rien ni personne ne l'aurait empêché de mettre une droite à Marco Materazzi dans les vestiaires en dehors des caméras. Et voilà, c'est tout simple quoi. Donc ça se laisse quand même bien lire, hein, y a pas de problème, hein, c'est on y apprend pas mal de petites choses en dehors du terrain, ce qui se passe pour la vie d'un footballeur professionnel, sa relation par rapport à l'argent, c'est-à-dire que le fait que de passer aspirant footballeur où tu gagnes à peine même pas pratiquement un demi SMIC au début de ta carrière et d'un seul coup tu te retrouves catapulté à la tête d'une somme d'argent assez considérable du fait que tu commences à gagner beaucoup de pognon. Et encore, quand il parle, lui, des sommes qu'il gagnait, parce que lui, il a le courage d'avouer qu'il gagnait tant à Arsenal, tant machin, c'est-à-dire quand il a commencé à Arsenal en passant à Monaco, il touchait 100 000 francs mensuels. Bon, ça va paraître super dérisoire, vu les sommes touchées par les footballeurs actuels, surtout ceux qui sont super connus, mais bon, à l'époque, c'était vraiment un grand bond par... au niveau monétaire, hein, au niveau financier, pour lui, quoi. C'est-à-dire, il passait vraiment dans une autre dimension. Il parle également des petites partouzes qui sont données par les gens qui aiment bien inviter, qui sont riches milliardaires et qui aiment bien avoir un panel de gens en vue de la société, people, tu vois, avec des putes à tous les étages, de la coke, en veux-tu, en voilà et tout. Alors, il déclarait aussi que bon, bah, ça lui arrivait de fumer des joints et tout quand il était à Monaco et tout, mais qu'il n'a jamais touché d'autres drogues parce que bon, c'était pas net et tout, et puis que tout simplement il était pas d'accord avec ce genre de truc là quoi. Bon, c'est sympa quand même quoi, c'est ça se laisse lire quand même, c'est un petit peu moins putassier que la majeure partie des bouquins qui sont faits, des biographies qui sont faits sur ces personnages publics que sont les footballeurs. Emmanuel Petit donc à Fleur de Peau, c'est sorti aux éditions Prolongation. Allez, on a parlé du hors-série de Technic Art concernant les séries télé, et là, eh bien, il y a quand même le hors-série de l'été, hein, y a pas de problème, c'est le hors-série Mad Movie, qui nous avait déjà sorti pas mal de hors-série, aussi bien, tout aussi bien les uns que les autres. Il y en a un seul que j'ai passé, acheté, c'est celui sur les jeux électroniques, hein, puisque bon, je suis pas du tout dedans, quoi, tout simplement, mais sinon tous les autres, laisse tomber, c'est de la balle, il y a pas de problème, et celui-là, eh bien, ce sont les divas de la série B. Les Scream Queens, les Femmes Fatales et les Pin-Up. Et vous pouvez faire le compte, il y en a 100 exactement. Hein. Alors, ça commence par un petit édito, puis un espèce d'explicatif sur ce que sont vraiment ces jeunes femmes, hein, qui ont l'habitude d'œuvrer dans les dans le cinéma qu'on appelle B ou des fois Z. Et par contre, eh bien, quant à la biographie, parce que bon, à chaque fois, il y a des photos bien suggestives de chacune de ces donzelles, voire
pas
plus.
Pas du tout. Ouais.
Voire plus. Mais il y a également, bien entendu, leur biographie et leur filmographie. Ça, ça va un petit peu de soi. Alors, il y a quand même des grosses têtes, on va dire. On remarquera que bon, bah, la majeure partie des nanas, on va dire, grosso modo. 80-85% des nanas sont des nanas qui se sont fait siliconer à un moment ou l'autre de leur vie, donc bon bah ça devient moins intéressant. On remarquera également qu'il n'a pas mal il n'y a pas une seule génération de Scream Queens, mais on remarquera qu'il y a des filles qui ont commencé, enfin, qui sont nées il y a vachement longtemps, hein. La plus vieille, hein, qui est citée dans ce magazine, est née en 52, hein, donc bah ouais, commence à avoir à accuser le poids des années. Et par contre c'est toujours très très bien foutu, avec des fois quelques petites interviews et quelques petites vérités qui sont assénées quant à la différence qu'il pourrait y avoir entre le vrai cinéma et le cinéma dans lequel officient ces jeunes filles. Alors par exemple Julie Strain, qui est assez avenante, hein, ma foi, hein, qui est la première...
Pas froid, ouais.
qui est la première donc, qui déclare, qui a quand même joué. Hein. Alors généralement, quand vous arrivez à percevoir ces nanas dans des productions respectables, on va dire, c'est qu'elle joue le rôle d'une nana qui est dans un cabaret en train de faire un striptease. Soit c'est une nana qui va se faire dégommer au fond d'une allée ou violer parce que bon bah c'est une occasion de montrer ses jambes, ses seins et tout le reste. Ouais, ça c'est évident, c'est pour ça qu'on les choisit généralement.
Ouais, hein.
Pas pour leur capacité à tellement bien jouer la comédie. Quoique, des fois, on tombe un petit peu sur le cul quand on sait qu'il y a des nanas dans le lot qui ont fait des études d'art dramatique, qui sont passées par le Actor Studio, s'il vous plaît. Donc, bon, bah, en clair, on se dit, bon, bah, d'accord, ok, ça va. Alors, pour Julie Strain, qui a joué, qu'on a pu voir dans un Van Damme, le Double Impact, dans Justice Sauvage de Steven Seagal.
Ah, Double Impact, oui, excellent.
Dans Le Dernier Samaritain avec Bruce Willis, dans Cuffs avec Christian Slater, dans Le Flic de Beverly 3 de Eddie Murphy. D'ailleurs, elle déclare à propos de Eddie Murphy, elle dit, je me suis toujours débrouillé pour approcher au moins une fois la star des films dans lesquels je tournais, à l'exception d'Eddie Murphy, dont la réputation de macho misogyne aimant se vanter d'avoir couché avec toutes ses partenaires me donnait envie de gerber. Arnold Schwarzenegger, par exemple, est un homme adorable et très attachant, il a le cœur sur la main. Steven Seagal est un des plus cools. En tout cas, il a toujours été très gentleman avec moi. Et contrairement à beaucoup d'autres, il n'a même pas essayé de me sauter. Je crois qu'il était surtout impressionné par le fait que je fasse toutes mes cascades moi-même, sans doublure. Il faut dire que Lana mesure quand même 1m85. Bon, d'accord. Alors on a également, bon bah, y a bien entendu les têtes de gondole, hein, c'est-à-dire Julie Strain, outre Julie Strain, Debbie Rochon, Michelle Bauer. C'est elle qui tient la tronçonneuse en couverture, hein, Hollywood Chainsaw Massacre, bien sûr. Monique Gabriel, Tracy Lords, Brigitte Nielsen, Pamela Anderson,
Erika Eleniak,
ouais.
Oh là là.
Il y a quand même trois alertes à Malibu dans le truc. Alors bon, Pamela Anderson est très sympathique parce qu'elle dit, bon, je pourrais dire beaucoup de vacheries sur David Hasselhoff quant à sa manière de se conduire avec tout le monde, pas seulement avec les nanas, mais bon, je vais pas faire ma langue de pute, donc je ne dirai rien. Linnea Quigley, qu'on connaît, c'est la nana qui danse sur les tombes dans Le Retour des Morts Vivants, tu sais, le film de d'Anne O'Bannon, la petite punkette là et tout, quoi, qui se fait bouffer la tête après par les par les zombies, qui joue également dans un groupe punk qui s'appelle The Skirts. Il y a également alors plusieurs thématiques, hein, donc dont une qui s'appelle du X au B et vice versa, c'est-à-dire d'anciennes actrices de X qui sont passées justement aux série B, quoi, parce que bon bah ok, on trouvait leur plastique assez avantageuse et que elles hésitaient pas à tout montrer sans problème, hein. Bon,
et
bah
voulaient essayer de se sortir de leur milieu.
Alors donc Jenna Jameson, mais enfin bon, moi j'aime pas trop, surtout Tracy Lords. Alors bon, elle justement qui a bien réussi à passer du X et tout, puis bon, elle a quand même une carrière, enfin une vie, on va dire assez tumultueuse, hein, un petit peu plus jeune, et bon, elle a quand même réussi à bien raccrocher les ballons. Jill Kelly, bien sûr, Taylor Wayne, Madison Stone, Ashlyn Geer, Julie Parton, Ginger Lynn, ah ouais, Terry Weigel.
On a une question par téléphone.
Oui.
Salut à tous.
Salut.
Bonjour.
Petite question.
Voilà, il faut présenter donc c'est Bruce qui quand je faisais Indigeste faisait l'émission de Hard Rock qui était juste après moi et qui maintenant fait le mardi les Impromptus, l'émission cinéma à midi.
Voilà, une petite question à du sport. Je voulais savoir si Dalma Movie n'essayait pas Jamie Lee Curtis.
Ah non, pas du tout, non.
Ah, c'est dommage.
Ben non, c'est pas une...
Le striptease dans le film avec Schwartz, là...
Ah ben là, moi j'avais plutôt dans les films Halloween, quoi.
Aussi.
Ouais, non, mais bon, Jamie Lee Curtis, c'est quand même... c'est IA, quoi.
Oui, mais Jamie Lee Curtis, dans Halloween, c'est la seule qui couche pas. Ah, ah.
Eh ouais.
C'est peut-être pour ça que c'est la seule qui survit.
C'est aussi, possible. Ouais. On a beaucoup taxé Carpenter de réac juste à ce film, oui.
Tout à fait.
Merci, Bruce.
Bonne émission et bonne émission.
Merci
Xavier, salut.
Merci, ciao.
Voilà, je continue. Alors par exemple Delia Shepard, qui est pas mal non plus, hein, et puis bon, qui a pas franchement un aspect de nana, bon, on va
vulgaire.
Dire vulgaire, hein, on va dire qui est danoise, hein, 1m78, elle parle couramment 5 langues, elle maîtrise parfaitement le taekwondo et le muay thai, et possède un doctorat en médecine alternative incluant le chamanisme. là, tu tombes sur le cul. Et il y a une de mes préférées quand même, hein, que j'ai découvert il y a bien longtemps, hein, bon, et il faut dire que bon, bah, elle accuse aussi le poids des années, parce que bon, elle a un an de moins que moi, donc, hein, Vous voyez que ça fait quand même pas mal, quoi. C'est Johan Severance. Aïe, 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 aïe. Et Thomas ne sait toujours pas qui est Johan Severance, quoi. Alors bon, elle a joué dans une panée de films comme L'Arme Fatale, Comme un oiseau sur la branche. Ça, c'est les films les plus connus, on va dire, hein. Mais c'est surtout dans son rôle dans Wise Guy, c'est-à-dire un flic dans la mafia, hein, parce que sœur de Kevin Spacey dans le segment où justement Kevin Spacey en plus s'appelle Profit, quoi. C'est ça qui est assez marrant, quoi. Et ils essayent d'embrouiller Ken Wall, mais enfin bon, ils arrivent pas, hein. On se rappelle la scène finale où Johan Severance prend le corps de Kevin Spacey mort et il va le mettre dans la barque et tout, qu'elle va enflammer, quoi, sur les flots, hein. Ah, ça nous rappelle une certaine légende, les légendes nordiques. Eh oui, où il fallait brûler les corps et puis l'envoyer sur un bateau comme ça. Aïe, aïe, aïe. J'en termine avec, les sont vraiment excellentes, quoi. De toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Alors il y a les grandes classiques. Alors j'essaie de la retrouver. Shannon Tweed, bien entendu, dont je vous parle assez souvent, quoi. Et là j'ai été surpris parce que je pensais qu'elle était plutôt maquée avec Andrew Stevens, du moins du temps où elle faisait beaucoup de films avec Andrew Stevens, hein, des thrillers pseudo-érotiques, En veux-tu à la voilà, qui faisait les programmations un petit peu hardy, on va dire, de TF1 après minuit le samedi soir. Rappelle-toi tous les Peppa Mary qu'on a pu se taper et tout, quoi. Et il y avait surtout beaucoup de Shannon Tweed. Et j'ai appris que ça fait 25 ans qu'elle est justement, et Bruce qui continue à écouter va être peut-être un petit peu sur le coup aussi, elle est avec Gene Simmons depuis 25 ans. Le leader du groupe Kiss, eh ouais. Donc c'est le hors-série de l'été, ça, il y a pas de problème, hein. Vous pouvez même le prêter à votre copine, il y a pas de problème parce qu'il y a beaucoup de textes, hein. Il y a plus de textes que de photos, hein. Souvent les nanas qui sont dedans, sont vraiment moins cons que la moyenne, quoi. Ça, il faut le dire aussi, quoi. Et ont une expérience un petit peu plus avisée de la vie. Ça, c'est toujours très très plaisant. Si, non, mais c'est vrai, j'ai l'air de plaisanter, mais c'est vraiment sérieux, quoi, sans problème. Voilà, donc, le hors-série de Mad Movies, les divas de la série B. On parle un petit peu de télé à présent, si vous voulez, non?
J'en profite, j'ai cru voir Terry Weigel dans le lot.
Oui, il y a Terry Weigel.
J'ai dit pas nous.
Ouais, mais elle est pas terrible, Terry Weigel. Moi, j'aime pas tellement.
Moi, je trouve qu'elle avait très très bien joué avec Clooney.
Oh là 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 là.
Dans le retour de Tomatueuse.
Oh là là. Ah oui, oui. D'accord. Alors, dans les films X, elle est pas top. Moi, j'aime pas, quoi.
Ah, mais c'est pas bon.
Bon, il faut aussi remarquer que, la plupart de ces nanas sont des nanas qui ont posé pour Playboy, Penthouse et tout, qui souvent ont été remarquées parce qu'elles ont posé pour Playboy et ont été débauchées par les cinéastes spécialistes de série B, tels que Fred O'Neill Ray, David DeCoteau et toute la bande, Charles Band, bien sûr, et beaucoup d'autres, hein. Et qui sont d'ailleurs recyclés dans des séries A, genre Rob Zombie, En Use et En Abuse et tout. Lui qui devait être un consommateur acharné de ce genre de film, à mon avis. Parlons un petit peu de séries à présent. Alors, tout d'abord, c'est pas compliqué, hein, c'est une série par jour et au lit. Avec ce soir, sur M6 à 20h45, vous avez loupé le début, ça y est, 4 premiers épisodes, samedi dernier, c'est con. Vu la teneur et vu que c'est une mini-série en 8 épisodes qui est tournée à la nouvelle manière, c'est-à-dire à la manière anglo-saxonne, avec précédemment dans Vous avez loupé. Donc on va vous faire un petit résumé.
Les épisodes précédents.
On va vous faire un petit résumé de toute façon. C'est Suspect ce soir sur M6 avec Ingrid Chauvin dans le rôle de Marina, Karina Lombard dans le rôle de Claude et Elodie French dans celui de Juliette. Alors l'histoire est très simple quand même, hein. L'histoire est située en France, à Bordeaux, hein. Bon, alors ici à Toulouse, les mecs vont pas apprécier et tout. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Il y a également Saïd Tagmaoui qui joue le rôle du commandant Stan Lamera, le flic intrépide et tout, qui est au-dessus de la moyenne. Alors l'histoire est très simple et tout, quoi. Lors de l'inauguration du relookage d'un nouvel hôtel à Bordeaux et donc de l'inauguration, c'est-à-dire les petits fours et tout le bordel et tout. Et bien, alors qu'on est en train d'admirer la superbe nouvelle verrière Art Nouveau, et bien il y a une nana en petite tenue qui franchit la verrière, traverse la verrière et qui s'écrase par terre et tout, quoi. Elle n'est pas morte. Non, non, elle n'est pas morte. Mais elle est plongée dans un espèce d'état catatonique, hein, quand on arrive à la faire revenir à elle, et elle se rappelle de rien. Et pourtant, eh bien, on retrouve dans sa chambre, eh bien, justement, les noms des trois personnages principaux féminins cités juste au-dessus, c'est-à-dire Ingrid Chauvin, Karine Lombard et Lady French, enfin, dans leur rôle, le nom de leur rôle, hein, bien entendu. Alors, ces trois nanas qui, en fait, de par leur vie, ne se connaissent pas du tout. C'est-à-dire n'ont rien fait en commun de par leur passé. Et donc, on va essayer de savoir pourquoi cette nana, eh bien, avait ces trois noms, avait écrit ces trois noms qui on a retrouvé dans sa chambre d'hôtel avant d'être projetée à travers la verrière, fracassée complète. Et ça, c'est Saïtag Maoui, qui est le patron des flics, qui va essayer de découvrir. Excusez-moi. Alors, on pourrait se dire, allez, encore une nouvelle saga de l'été, puisqu'il y a Ygritte Chauvin dedans, tout, genre Dolmen et tout ça. Bah non, pas du tout, hein, c'est un rythme un petit peu plus rapide et tout. Une façon de filmer qui est somme toute assez agréable, quoique un petit peu dépouillé quand même. Mais bon, on s'y retrouve quand même un petit peu. Mention quand même spéciale à Karina Lombard. Karina Lombard, qui est une anglo-saxonne, mais enfin avec mi-française, je crois. Sa mère est française et son père est californien, qui faisait partie quand même de la distribution de 4400, hein, c'est pas n'importe quoi. Elodie French, elle aussi on la connaît un petit peu, quoi. Elle a toujours joué dans des rôles un petit peu franchouillards de bas de gamme, on va dire, mais là elle a un personnage assez savoureux, hein. C'est une Suissesse qui arrive en France et à Bordeaux donc, et qui vient d'embaucher dans une nouvelle boîte de produits de beauté. Elle joue le rôle de la nana un peu fofolle, un petit peu étourdie, on va dire, quoi. Mais bon, ça le fait quand même, quoi. C'est assez plaisant à regarder. Donc c'est Suspect ce soir sur M6 à partir de 20h45. Demain, alors c'est pas du tout récent, mais c'est de la très bonne qualité italienne, Commissar Montalbano avec Luca Zingaretti dans le rôle titre. Alors là, bon, c'est vraiment de la balle, hein. Il y a toute une série de téléfilms sur ce héros de polar, hein, qui a été adapté à la télévision. Montalbano, ça se passe en Sicile, toujours des espèces de paysages excellents. C'est réalisé par Luca Cironi en 2000. Le téléfilm, donc, ça dure quand même 1h30, 1h40. Hein. Ce sont des téléfilms. C'est La Forme de l'eau, et outre Luca Zingaretti, il y a également Katharina Böhm et Isabella Solman dans les rôles principaux. C'est demain soir sur NRJ 12 à partir de 20h45. Lundi, bien entendu, alors là c'est la troisième ou quatrième semaine que je vous en parle, et ce sera la dernière d'ailleurs, hein, parce que c'est la fin de la saison. Division Enquête Criminelle sur Paris Première à 20h50 lundi prochain, avec le Samantha Spiro et Lindsay Coulson entre autres. Le numéro 7 de cette série qui en comporte 8, de cette saison qui en comporte 8, c'est Le Sacrifice des Agneaux, et le dernier donc c'est Suivi à la Trace. C'est lundi sur Paris Première, ça vaut le coup. Le seul bémol, eh bien, c'est que on nous passe la version française, alors que Paris Première est quand même renommé pour passer les séries en version originale. Et là, c'est bizarrement pour cette série anglaise, non, on n'a pas de série de version originale. Il faut se contenter de la version française. Mardi, c'est sur Canal Plus décalé, mais c'est également diffusé le lundi. Mais bon, comme le lundi c'est Division 4 Criminels, il faudra passer au mardi pour cette série multidiffusée sur Canal Plus. Là c'est sur Canal Plus décalé à 20h50, c'est Mafiosa le clan, qu'on avait déjà vu, hein, sur Canal, mais c'est agréable à revoir quand même, hein. Ça revisite un petit peu le mythe de la mafia, mais dans un endroit un peu spécifique qui est la Corse. C'est la mafia à la française, ou à la Corse si vous préférez, hein. Non, je vais même pas faire plastiquer ma voiture. Et bizarrement, c'est un interprété par des comédiens qui eux n'ont pas tellement de corsitude en eux, mais qui doivent certainement être bons. Hélène Filière, Daniel Duval, Thierry Novick. Deux premiers épisodes donc mardi prochain sur Canal Plus décalé à 20h50. Mercredi, toujours Paris Première bien sûr, et toujours Les Mystères de Sherlock Holmes, excellente série. Et là, justement, on a la version multilingue, donc ça vaut le coup, hein, avec Ian Richardson, magnifique, excellent, hein, dans le rôle du professeur Bell, et Charles Edwards dans le rôle de Conan Doyle, parce que contrairement à ce que vous fait penser le titre, il n'est pas question de Sherlock Holmes, hein, mais bien du mentor historique de Conan Doyle, hein, c'est-à-dire son professeur à la faculté de médecine d'Édimbourg, professeur professeur de chirurgie et de médecine, donc parce que Conan Doyle est médecin quand même au départ, et donc Charles Edwards interprète le rôle de Conan Doyle. Mais dans cet épisode réalisé par Paul Marcus en 2000 qui s'appelle L'énigme du chevalier blanc, eh bien comme guest star on a quand même un certain Rick Mayall. Rappelez-vous, dans les années 90, cette série complètement déjantée qui s'appelait The New Statesman, où Rick Mayall tenait le rôle principal d'un député conservateur plus
conservatoire.
Pourri.
Et pas pourri. C'est le mec le plus à droite de l'Assemblée.
Oui, mais plus pourri que lui, Tumeur. C'était complètement déjanté, mais vraiment.
Il est tellement libéral qu'il voulait libéraliser quand même la vente de hashish.
Ah oui, oui, non, mais bon, excellent. Donc, et là, on retrouve Rick Mayall dans un rôle un petit peu plus sérieux, donc Les Mystères de Sherlock Holmes, mercredi prochain sur Paris Première à 20h50. Jeudi sur Canal+, c'est quand même l'inédit de la semaine, hein, c'est Starter Wife, une mini-série on va dire, hein, car il n'y a que 6 épisodes dans cette première saison. Ça raconte l'histoire, c'est basé sur une histoire vraie, hein, c'est l'histoire d'une nana qui est mariée à un producteur de Hollywood et qui se fait jeter au bout de 9 ans et donc elle se retrouve pratiquement à la rue. C'est-à-dire qu'elle a l'habitude de tout le glamour d'Hollywood, les soirées, ah salut Georges, comment tu vas, et là bah du jour au lendemain, ok, à dégager, casse-toi, et donc eh bien ça a inspiré donc cette mini-série réalisée par John Avnet, qui est pas n'importe qui, hein, Beignet Tomate Verte entre autres, il nous avait fait comme série Boomtown, bah ouais, ça le fait, d'accord, et dans le rôle principal donc de Starter Wife, cette femme qui va recommencer sa vie, c'est Debra Messing qui a quand même tenu le haut de l'affiche en série, en soap, on va dire, pendant les 8 ans qu'a duré Will and Grace. Ah ouais, eh ouais. Et donc, à côté d'elle, on a Judy Davis, Peter Jacobson, Miranda Otto et Joe Mantegna. Deux premiers épisodes sont diffusés par Canal+, jeudi prochain, à partir de 20h50. Et on termine avec tintin, vendredi, c'est bien entendu Urgence sur France 2 à 20h50.
J'y vais.
7, 8 et 9e épisode de cette 14e saison avec le retour de Luca dans l'épisode 8. Ouais, on l'a entreaperçu là hier soir. Hein, mais il était encore en Croatie parce que son frère en fait est gravement malade et donc il faut lui filer un coup de main et tout. Mais par contre, Abby, elle commence à péter les plombs et elle a recommencé à boire. Ah ouais,
Ne dis pas tout parce que je vais être obligé de me le fader vendredi prochain.
Ouais, non, mais tu vas avoir du mal, hein.
Je sais aussi.
Mais par contre, ça va très bien pour John Stamos, là, qui, il croyait qu'il avait un petit ticket avec une petite jeune. Il a quand même réussi à rouler un palo à la maman de l'enfant surdoué qui est atteint d'une maladie incurable. L'aventure va-t-elle se prolonger ? Il faudra patienter jusqu'à vendredi prochain. Urgence à partir de 20h50 sur France 2.
13h32 sur la poubelle des radios.
Allez, on se termine avec pratiquement l'ensemble des westerns qui vont être diffusés sur vos différentes chaînes la semaine prochaine. Alors ce soir sur RTL9, un film que j'étais allé voir à l'époque parce que le casting me paraissait tellement délirant qu'il fallait quand même aller voir ce que ça donne, quoi. Et bon, bah c'était l'époque, c'était quand même le crépuscule, hein, du western italien, quoi. C'était en 75. C'est un film de Damiani qui a fait, lui, qui a commencé sa carrière dans les années 50, dans les années 60, Peplum, puis bah vers la fin des années 60. Sergio Leone aidant un western bien entendu, puis également polar italien, c'est Damiano Damiani bien sûr, un génie, deux associés et une cloche avec Terence Hill, Robert Charlebois, Miu Miu, Patrick McGowan et Klaus Kinski.
Je prends.
Tu prends.
Non,
tu prends.
C'est inregardable. Même avec des spaghettis, avec du popcorn et de la crème fraîche dedans et tout ça, j'ai pas pu tenir.
J'ai pas pu. Si.
Tu vas me redonner le titre, je vais le renoter là.
Un génie, deux associés et une cloche.
Et ça sort.
Et c'est ce soir sur RTL9 à 20h45.
Xavier, comment te dire?
Alors.
Chiche. On le met.
Demain sur RTL 9 à 20h45. Ouais, mais il faut bien suivre les dialogues aussi, parce que bon, bah ça vaut son pesant de cacahuète.
Je pense que c'est aussi nul. Hein.
Je pense que je vais devoir l'enregistrer tout simplement.
Ah, oui, tu peux. Oh, tu dois bien le trouver peut-être en DVD, me semble, à prix réduit, sans problème, dans une solderie.
S'il l'avait pas dans son magasin de DVD, c'est qu'il y avait un problème là.
Je pense tout simplement qu'il n'a jamais été édité en DVD. Mais bon,
à la vente, en VHS, tu veux dire.
Oui, mais VHS, si tu veux savoir, les couloirs du stock étaient très longs. Très haut. Il y avait tellement de cassettes que c'était double épaisseur. C'est-à-dire que tu prenais une étagère, t'avais une cassette et puis une autre derrière.
Ah ouais,
donc
d'accord,
il faut que tu vérifies.
D'accord. Alors par contre, demain soir, toujours sur RTL 9 à 20h45, un autre western qui est mis, c'est pas vraiment un western, hein, parce que bon, il y a aussi une histoire d'ethnologue dedans. C'est le dernier Cheyenne de Tab Murphy, Acéris 95, avec Tom Béranger, Barbara Hershey et Kurtwood Smith. Ouais, qui joue le rôle du shérif. Sur Direct 8 demain également à partir de 20h40. Alors là, c'est également un truc qu'il faut se regarder comme ça, parce que bon, à l'époque, ça se voulait un petit peu. C'était en 70, donc c'est quand même réalisé par Sergio Corbucci, qui est également un des grands du cinéma italien de cette époque-là. Mais bon, c'était vraiment le film qui se voulait, l'acteur se voulait être l'égal un petit peu de Clint Eastwood, tu vois, quoi. On essaie de pomper à tout prix Clint et tout, quoi. Bon, ça s'est pas fait parce que bon, à l'époque, maintenant on dit qu'il sait jouer, mais enfin bon, moi je continue à dire qu'il joue pas bien. C'est Johnny Hallyday qui tient le rôle du spécialiste dans ce film de 70.
Le pendant de Clint Eastwood.
Ah oui, avec il est blond avec des yeux bleus, ça pète non, les grands, c'est effarant.
Parce que dans Terminus,
c'est pareil, blond peroxydé, yeux bleus.
Ah ouais, non, mais rien à voir. Attends, parce que là, c'est un western, la veste à frange et tout, avec les petits anneaux et tout, tu vas voir, le chapeau.
Ah, c'est horrible.
C'est terrible.
C'est quoi le film, là?
Le spécialiste.
Ah oui. Mais dans Jean-Philippe, il est très bien, Johnny Hallyday, hein.
Oui, non, mais ouais, là, on parle d'autre chose.
Parce qu'il a pas besoin de forcer.
Oui. Pareil, dans l'homme du train, il force pas, et tant mieux. Qu'il se cache.
Mais par contre, il y a Mario Hardorf. Donc, ils ont quand même pris des acteurs qui savaient jouer, quoi, tu vois, quoi. Même si là c'était plutôt un rôle alimentaire, quoi, on va dire. Il y a également demain soir, pas western, mais bon, on peut dire que le Peplum c'est également une sorte de western, hein, de toute façon, mais qui date d'il y a plus longtemps, quoi. Il y a soirée Peplum sur TF6 demain soir, avec deux films de 1962. Le premier de Gianpaolo Calegari, qui s'appelle Ponce Pilate, avec Jean Marais, Jane Crane et Basil Rathbone, mon gars, à 20h25 et à 22h15, Romulus et Rémus, celui-là il est vachement bien.
Oh là là, qu'est-ce qu'il est vachement bien, celui-là.
De Sergio Corbucci en 62, avec en plus dans le rôle des deux frangins, quoi. Hein,
deux culturistes,
hein, qui ont joué tous les deux du Hercule et du Massiste, Steve Reeves et Gordon Scott. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus là?
Non,
franchement,
mais en fait, moi je suis subjectif parce que j'ai usé cette VHS quand j'étais petit tout le temps. Bah, c'est pour ça. C'est
comme
toi aussi, tu aimes
au même rayon que Banzai et les Soudoués passent le bac. C'est même combat.
Tout à fait. Alors par contre, sur CNFX demain soir, il y a quand même une curiosité qui vaut, à mon avis, son pesant de cacahuète. Hein. C'est à 21h, Billy the Kid contre Dracula avec John Carradine. Melinda Plowman et Chuck Courtney. Alors c'est
avec une espèce de truc en carton plein en noir qui fait la chauve-souris.
Ah non mais attends, parce que c'est réalisé par William Bodine en 66, qui nous avait déjà fait Jesse James contre Frankenstein. Je vous ai pas ramené le DVD, quoi, mais j'aurais dû, quoi, parce que là ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Ouais. C'est génial.
Tu peux
excellent. Ah oui si tu veux, ouais, y a pas de problème, hein. C'est disponible dans la collection Backfilm, tu sais, les DVD à prix réduit, mais ça vaut son pesant de cacahuètes de toute façon, quoi. Donc Billy the Kid contre Dracula, c'est demain soir sur Cinéfix à 21h. Le vrai Billy the Kid, je vous en ai parlé la semaine dernière, eh ben il est rediffusé sur TCM à 20h45. Je veux parler de Pat Garrett et Billy the Kid, l'excellent film de Sam Peckinpah avec James Coburn, magnifique, Chris Christopherson, bon, qui tire son épingle du jeu, mais enfin c'est pas tellement ça, moi j'aime pas tellement, quoi. Et Bob Dylan, là, qui est aussi assez impressionnant, hein, c'était un de ses premiers rôles au cinéma. Alors justement, quand je vous avais parlé la première fois, je vous avais dit que Bob Dylan, il a déjà tourné dans un film australien avec Mick Jagger, et en fait le film s'appelle Ned Kelly, qui est l'histoire, c'est un western australien hein, qui raconte l'histoire d'un des premiers grands bandits à l'instar de Billy the Kid, mais australien. Donc
c'est sorti il y a 5-6 ans, Ned
Kelly. Ah non, Ned Kelly, ça date des fin des années 60, mon gars.
Alors il y en a eu un autre qui s'appelle Ned Kelly, pareil.
Peut-être, mais ça a été un remake à mon avis. Hein, mais l'original, hein, avec Bob Dylan, Mick Jagger dedans.
Tu sais, JB, tu sais comment on dit main en l'air en Australie?
Hands down.
Alors mardi, toujours western, là, pur western quand même, cinéma classique, vous propose 4 balous de Elliot Silverstein en 65, oui, avec Jane Fonda et Lee Marvin, là c'est pas mal, hein, et Jane Fonda là était vraiment bien, avant Barbarella en plus, donc ouais, hein.
Cool.
Ouais, on va pas dire, elle était mais bon ouais, on le pense quand même. Et mardi c'est également Peplum encore sur TF6, à 20h25, Ulysse de Mario Camerini en 54 avec Kirk Douglas, Silvana Mangano et Anthony Quinn. Et à 22h15, alors celui-là il est multidiffusé, si vous l'avez jamais vu, c'est que bon vraiment vous avez pas envie de le voir. C'est le Colosse de Rhodes, hein, de Sergio Leone en 61 avec Rory Calhoun, encore un bodybuildé, machin, un truc bidule qui a joué après des massistes et ce que tu veux, et Léa Massari. Mardi prochain donc sur TF6. Et le dernier c'est jeudi prochain sur Ciné Cinéma Classique. Là c'est on peut dire le crépuscule du western américain. C'est quand même un Howard Hawks El Dorado en 67 avec John Wayne, Robert Mitchum et James Caan. Mais là James Caan était très jeune hein, à l'époque.
Oui.
À 22h45 Ciné Cinéma Classique jeudi prochain, El Dorado de Howard Hawks.
On arrête là, j'arrête de faire le con avec mon petit machin, ce qui fait que j'ai eu du mal à suivre.
Et petit machin.
Ma foi, Thomas, j'aurais loupé.
Strictement une sexuel, évidemment.
J'aurais loupé une partie du supplément week-end numéro 167, mais que s'est-il passé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route?
Eh bien, aujourd'hui, c'était ton anniversaire, Xavier. Nous avons eu un fait incroyable. JB avait écrit une chronique. Nous avons eu des chroniques débridées de Pékin, du bonbon BDS, un rewind de comics, du robot maqueux, des nerds, du foot chevelu blondiné, des femmes avec une expérience avisée de la vie, un appel de Bruce, le fan de Jamie Curtis, un casting improbable pour un western spaghetti, le rangement VHS de JB, et après s'être tapé Batman, Dracula affronte Billy the Kid, et nous avons appris que Xavier avait un petit truc.
Nom d'une bougie. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec aussi les chroniques écrites, mais fouillez dans nos archives. Laissez vos commentaires, posez vos questions. N'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission supplémentweekend.tk. C'est l'adresse, sans accent ni tiré, supplément weekend. Ou sinon, vous cherchez sur Google supplément weekend FMR ou supplément weekend MP3, vous tombez direct dessus sur nous. La suite des programmes sur FMR avec de suite votre télé sportif à 15h du reggae et à 17h c'est Booster FM sur 89.1. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même fréquence sans Thomas et avec une interview de Sébastien Ruchet.
Ni du sport. Du sport,
ah, du sport n'est pas là. Bon, alors dans 15 jours, voilà. La flemme. Ciao, bye.